Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Édouard a 27 ans. Il est franco-malgache, ingénieur dans un grand groupe, bénévole dans une association pour sans-abri, catholique, homosexuel fier, parisien, et a une face de chocolat, comme il le dit. Avec tout ça, j'étais obligée d'interviewer Édouard. Déjà parce que je trouvais que sa double nationalité pouvait permettre à chacun ou chacune de réfléchir un peu autrement au présent et au futur. Mais quand je lui ai demandé de se présenter, j'ai découvert à travers sa somme d'attributs qu'il avait beaucoup plus de sujets qui le touchaient et l'influençaient dans son quotidien. J'ai adoré discuter avec lui et voir comment cette somme d'attributions forgeait sa vision de la vie. Même si le destin lui a fait apparaître cette équation d'attributs comme antinomique, voire comme des contradictions, il a su évoluer au mieux avec et en faire un magnifique mélange qui font qu'il sait où il va et comment il va y aller. Nous avons parlé travail, politique, religion, bref, que des thèmes qui pourraient mettre une sacrée ambiance à un dîner de famille. La bienveillance et la réflexion d'Edouard en font des sujets hyper agréables à traiter et qui apportent une vraie profondeur à cette discussion. Cela n'engage que moi, mais c'est déjà pas mal. Je vous laisse découvrir les multiples facettes d'Edouard et réfléchir avec nous à un meilleur demain. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Edouard.
Bonjour.
Alors, l'objectif aujourd'hui, évidemment, c'est de parler de demain, de ta vision de demain. La question que je pose en premier lieu, c'est la plus ouverte qui soit pour justement commencer à toucher des débuts de réponses. La première question, c'est comment tu vois demain d'un point de vue personnel ?
Alors moi, je suis plutôt de nature optimiste, donc malgré toutes les situations en fait, que notre monde traverse aujourd'hui, moi j'ai toujours une vision plutôt positive et optimiste. Je sais qu'il y aura forcément des situations qui ne seront pas faciles, mais d'un point de vue personnel, je pense que ça ira.
Et maintenant, d'un point de vue professionnel ?
Je pense que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en fait, il nous pose de nombreux défis, donc on va devoir s'adapter. Ce sera pas forcément facile, mais ce sont des challenges et des défis que on va devoir, et moi personnellement, les surmonter. D'un point de vue professionnel, je pense surtout que le monde change tellement vite qu'il va falloir se réinventer constamment. Et ce sera celui qui saura se réinventer le plus facilement possible. C'est celui-là qui va, professionnellement, je pense, gagner.
Et donc toi, Edouard, comment tu te réinventes ?
Je pense que mon parcours en tant que tel, tu as décrit parfaitement déjà mon identité. Je suis franco-malgache, je suis parisien et j'ai une face de chocolat. Je suis ingénieur et je suis aussi bénévole dans une association pour sans-abri. Ingénieur dans un grand groupe, parce qu'effectivement on a tendance à opposer le monde des grands groupes et le monde des réalités qui sont celles des sans-abri est beaucoup plus compliqué. Mais je pense en fait que déjà par mon parcours, j'ai cette capacité en fait de passer d'un milieu à un autre assez rapidement. Je suis né à Madagascar je pense que ça m'a appris énormément à m'adapter au maximum et à assimiler l'environnement dans lequel je suis. Et donc j'ai cette capacité, je pense, innée à me réinventer constamment.
À quel âge tu es arrivé en France ?
Je suis arrivé en France à 17 ans.
Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi quand tu es arrivé en France ?
Je pense que c'était pour moi une expérience très très simple parce que j'étais dans un lycée français à Madagascar. On a baigné dans une culture française depuis qu'on est tout petit. Et donc le côté culturel n'a pas été un véritable choc. Ce qui a été certainement plus dur pour moi, je pense, pas être accepté par la communauté nationale française, je dirais, mais à comprendre mes réalités, c'est-à-dire que toute cette somme que je t'ai décrit tout à l'heure, elle a besoin de vivre librement.
Cette somme de caractéristiques.
Je souhaitais vivre en fait toutes ces sommes de caractéristiques qui font mon identité de manière la plus libre possible, sans être contraint par la société dans laquelle on vit actuellement, et je me suis rendu compte que c'était pas forcément si simple, même si effectivement, comme je dis, je suis de nature plutôt optimiste. Mais effectivement, face à moi, il y a différentes contraintes qui existent toujours aujourd'hui, et pour moi, ce sont des défis et des challenges que je vais, moi, personnellement, être confronté.
Il y a un challenge, naturellement, là, qui te paraît être le plus gros challenge pour demain ?
Je pense le vivre ensemble. Je reviens sur effectivement toutes les contradictions, j'appelle ça des contradictions de mon parcours et de mon identité, parce que je pense que pour de nombreuses personnes, c'est pas forcément très simple. Et des défis et des challenges qui me viennent en idée, je pense que c'est tout ce que j'ai cité. Faire un lien entre une foi personnelle et en même temps une vie de famille qu'on a envie de construire et que j'ai envie de construire, ou être en capacité de travailler dans une entreprise tout en se souciant des problématiques sociales ou écologiques, et ou encore le fait que je sois né à Madagascar et que je vis en France. Pour moi, mon pays commence sous les tropiques et il se finit au niveau de la mer du Nord. Donc, pour moi, un défi, il est là. C'est réussir en fait à faire comprendre à la société qu'on peut être toutes ces sommes, pouvoir vivre en communauté avec le reste de la société, sans forcément imposer mon identité, mais à faire en sorte que déjà je puisse vivre librement et que ça puisse aussi inspirer d'autres personnes.
Je trouve ça passionnant, et en effet, j'aime beaucoup cette idée de vivre ensemble. Je pense qu'en effet, on n'est pas une personne au sens de j'ai une qualité, mais ça peut être des caractéristiques, des facettes de la personnalité. Et en effet, ce que tu dis là, pour moi, est clé. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que j'ai beaucoup de personnes, quand je leur parle de demain, elles estiment que pour avoir un meilleur demain, il faut qu'elles changent certaines habitudes. Est-ce que dans ton cas, il y a des habitudes que tu avais dans le monde d'avant, comme on a l'habitude de le dire, que tu as envie de changer pour créer le monde d'après ?
Oui, tout à fait. En fait, je pense que le monde d'avant, il s'est pas terminé avec le coronavirus, dans le sens où il y a des réalités qui vont continuer à vivre, à exister. Je pense que avant j'avais quand même un focus où je me concentrais essentiellement sur ma personne et sur mon parcours, mais j'ai compris depuis la crise des gilets jaunes ou avec la situation écologique et maintenant le coronavirus que il faut pas que je sois, désolé du mot, mais coquiffé par mes certitudes, que ça soit politique ou écologique ou religieuse ou personnelle. Je pense qu'aujourd'hui il faut absolument que je sois le plus ouvert d'esprit pour pouvoir comprendre le monde dans lequel je vis, pour pouvoir comprendre les tensions les différentes tensions qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, je suis beaucoup plus alerte, je dirais, sur ces différentes tensions. J'essaie de les comprendre, j'essaye au maximum d'apporter ma part de responsabilité. Je pense qu'on a tous une part de responsabilité envers nous-mêmes déjà, mais aussi envers la société dans laquelle on vit. Et je pense que c'est pour moi un devoir en fait de comprendre ce qui se passe réellement. Si effectivement demain j'ai une personne qui... Et c'était peut-être pour ça aussi que je suis engagé dans une association pour sans-abri. Je ne cache pas que je suis aussi engagé politiquement. Mais je pense que la situation actuelle, elle m'enrichit pour pouvoir mieux comprendre ce qui est en train de se passer.
Si on revient sur un peu ton travail, est-ce que, parce que ça fait partie des sujets aussi qui reviennent par rapport à toutes les interviews que j'ai pu faire, la notion de sens au travail, c'est quelque chose qui te travaille, pardon pour le jeu de mots, en ce moment ou pas du tout ?
Non, mais tout à fait. Je pense que la crise dans laquelle on est, c'est aussi une crise existentielle du monde du travail. Parce que maintenant, on a déplacé le... Enfin, moi, je fais du télétravail depuis maintenant 3 mois. Ça a eu un impact sur ma performance parce que je me suis rendu compte que j'étais 3 fois plus performant à la maison. Parce que c'était... Il y a un univers qui est beaucoup plus calme. Et je n'ai pas la pression que l'on peut avoir quand on est dans un open space. Parce que c'est vrai que l'open space, à la base, il était conçu pour que on puisse mieux échanger, pour qu'il y ait plus de facilité au niveau de l'espace au travail, que ce soit beaucoup plus simple de communiquer entre nous. Et au final, j'avais l'impression d'être comme dans un poulailler. Je voyais en fait cette image de surperformance, qu'on était comme dans un poulailler, que les images horribles qu'on peut voir aujourd'hui par les associations qui nous alertent de la condition des poulets quand ils sont entassés par milliers. Enfin, j'avais l'impression d'être comme ça. Mais cette fois-ci, avec la pression du management, mais aussi avec la pression de performance. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a une autre manière de pouvoir faire de la performance sans forcément subir ces conditions qui, pour moi, vont devoir évoluer dans le temps, parce que humainement, pour moi, je pense qu'elles ne sont pas tenables dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
Donc, énormément de sujets. Allez, viens, on va se projeter un tout petit peu. Le futur, toi, dans 10 ans, tu l'imagines comment ?
Je ne saurais pas du tout, je ne saurais pas quoi te dire. Parce que je pense que le monde change tellement vite, je ne serais même pas capable de te dire dans 3 mois ce qui va se passer. Effectivement, je pense que la situation actuelle, elle va durer encore un petit peu longtemps. Il y aura une période d'instabilité, de turbulence sur plein de domaines écologiques, sociaux, sanitaires. Et j'espère qu'à la fin de ces trois problématiques, il y aura quand même une meilleure situation pour tout le monde. En tout cas, comme j'ai dit, je suis plutôt de nature optimiste, donc je vais réussir à me focaliser sur quelque chose de positif pour les 10 prochaines années. Mais en tout cas, je n'ai pas en tête exactement ce qui pourrait se passer.
Et toi, dans 10 ans, même si le monde bouge énormément, est-ce que tu as quand même une projection par rapport à toi dans 10 ans ?
Bah, je me vois en famille. Je me vois en famille, hein, dans 10 ans, je me vois bien installé, certainement toujours en France, mais effectivement en famille, avec des enfants, avec mon mari, avec un travail stable, mais pourquoi pas aussi sa propre entreprise, et aussi pourquoi pas un engagement politique qui prendrait peut-être plus d'ampleur. Oui. Peut-être, je pense que c'est déjà beaucoup pour les 10 prochaines années.
C'est déjà une projection qui est ambitieuse. Justement, tu me fais une très belle transition par rapport à l'engagement politique. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement pour que notre société évolue, on va dire, dans le bon sens, qu'est-ce que ce serait ?
Première proposition, ce serait le droit de vote obligatoire. Un peu à la Suisse, il serait obligatoire. Tout simplement parce que je pense que, comme je l'ai dit, on a une responsabilité envers nous-mêmes, mais on a aussi une responsabilité avec la société. Et on est dans un pays qui s'appelle la France, qui a vécu le siècle des Lumières, et je pense que le peuple français est assez éclairé pour pouvoir prendre des décisions. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu différentes crises sociales que la France a connues ces derniers temps. Si les Français ont un mot à dire, la meilleure manière de le faire, c'est à travers les élections. Et pas juste les élections présidentielles. C'est aussi les élections intermédiaires, régionales, les municipales, mais également ultra-locales. Ça peut aller jusque des élections au sein d'une école pour choisir le représentant des parents d'élèves. Ça se joue à l'échelle locale, et il faut aussi avoir la vision globale. Mais effectivement, pour moi, le droit de vote doit être... pas simplement un droit de vote, il ne faut pas que ça soit non plus de la sanction, cette obligation d'aller voter. Il faut qu'il y ait une part de pédagogie. Mais je pense que c'est très important dans un pays qui a traversé le siècle des Lumières.
Ça deviendrait un devoir de vote ?
Ce serait un devoir de vote, tout à fait.
Mais malgré tout, je t'embête un peu là-dessus, beaucoup de jeunes ou même de personnes qui disent ne pas voter, leur argument premier, c'est « je ne me retrouve pas dans les personnes qui vont former notre gouvernement, que je vais élire, je ne m'y retrouve pas. » Est-ce que toi, ça, tu as un début d'idée, de réflexion par rapport à ça ?
La personne qui a fait cette réflexion-là, elle a déjà fait la moitié du chemin. Ça veut dire qu'elle a identifié que les personnalités politiques ou sa représentation à l'échelle locale ne répond pas à son quotidien ou en tout cas à ce qui lui préoccupe. Pour moi, il y a plusieurs manières en fait, de répondre quand on est éclairé à cette échelle. Déjà, en fait, quand on décide de faire... Enfin, déjà, décider de faire une action, comme je dis, locale. Quand je dis une action locale, c'est-à-dire la ville ou une association. Moi, je le fais dans une association. Et en fait, par défaut, notre ville, notre vie, notre société, en fait, elle sera meilleure. Elle ira déjà dans un sens. Et c'est pour ça que je dis que moi, je suis optimiste, parce qu'aujourd'hui, en fait, le cynisme, il est devenu une sorte d'arme. On dit qu'en fait que le cynisme c'est une arme contre les personnes en fait comme moi. Moi je suis une personne dite ordinaire. Moi je suis un ingénieur. Je suis issu de l'immigration. Je suis parisien. Je fais mon quotidien. Je me lève le matin sans me dire que j'ai une mission exceptionnelle. Je vais à l'école. Enfin je vais au travail comme tout le monde. Je pourrais aussi être instituteur.
J'adorerais ce lapsus.
Mais je pense qu'effectivement, le cynisme, en fait, est vraiment devenu une arme et pour faire en sorte, en fait, que les personnes dites ordinaires comme moi se mettent, en fait, au banc des décisions et qu'elles se mettent totalement en retrait des processus de décision et notamment politiques. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'offre qui correspond, qui pourrait te correspondre à toi, par exemple. C'est parce que ta représentation n'existe pas aujourd'hui parce que peut-être tu n'as pas aussi fait ta part de travail à ton échelle. Et là, j'ai cité une association, mais c'est aussi un rayonnement même dans ta propre famille. Faire exprimer tes envies, ce que tu me posais comme question, comment je me voyais dans 10 ans. Moi, je me disais, effectivement, moi, je veux faire famille dans 10 ans. Et effectivement, même à l'échelle de ma propre famille, quand j'ai des questions, je dis mais comment toi, homosexuel, dans 10 ans, tu pourras avoir des enfants en France ? Et c'est pour cela que je pense que la cohérence cette volonté dans 10 ans de faire famille doit aussi se traduire dans une cohérence dans un engagement local ou dans un engagement politique.
J'aime beaucoup ce terme « faire famille ». Je trouve que ça change. On a plutôt dire « fonder une famille », mais « faire famille », j'aime bien aussi ça. C'est un peu le vivre ensemble, faire famille. En effet, je pense que ça peut même aller plus loin que juste le fait d'être avec ses enfants et son compagnon, mais faire famille avec tous ceux qui nous entourent, je trouve que c'est un sujet tout à fait intéressant. Ce qui est génial, avec les pieds dans deux mains, j'apprends de nouvelles expressions qui feront le futur. Si maintenant on revient à aux jeunes, qu'est-ce que toi tu auras envie de transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils fassent société et que demain soit un monde meilleur ?
Alors, moi je pense que c'est, si j'avais un message à faire passer à des jeunes, je pense que je suis encore jeune, hein, j'ai 27 ans, mais je pense que je fais encore partie de cette jeunesse. Je pense que c'est avant tout à chacun d'entre nous qui peut prendre en fait des responsabilités à son niveau. À l'échelle locale, bien sûr. En fait, on peut se dire, vous savez quoi, cette année, je vais participer au municipal. Faire partie d'une liste électorale, ça peut se faire. Tout le monde peut participer. Vous savez quoi, cette année, je vais m'investir dans une association pour aider les SDF. Tout le monde peut le faire. Vous savez quoi, aujourd'hui, je vais lire cet article sur le sort des migrants dans la mer Méditerranée. Je vais être plus attentif à la situation des agriculteurs dans mon pays. Je vais lire des articles pour connaître la situation des agriculteurs dans mon pays. Et quand on choisit de prendre ses propres responsabilités, du coup, l'optique, pour moi, elle grandit réellement à ce moment-là. Parce que pour moi, quand on décide en fait, de prendre part à une action, le monde et notre société, par défaut, en fait, deviennent meilleurs. Quoi qu'il arrive, même à elle-même, si c'est à l'échelle locale. Je te l'ai dit, effectivement, je suis au milieu de plusieurs contradictions.
Pourquoi contradiction, excuse-moi ? Pourquoi toujours voir la chose d'un point de vue de la contradiction ? C'est une somme de choses, pourquoi la contradiction ?
Je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, quand tu me posais la question, quand je suis arrivé en France, toutes ces sommes-là, au vu de la société, sont considérées comme des contradictions. Qu'on ne peut pas être dans un groupe du CAC 40 et penser à l'échelle d'un SDF, par exemple. On a tendance, en fait, à opposer aujourd'hui la grande finance et les réalités du petit commerce.
C'est un vrai point. Le digital et le physique, quoi.
Exactement.
C'est la France qui t'a montré ces contradictions. Le Madagascar ne te les montrait pas. Puisque tu arrives à ce terme de dire contradiction. Est-ce que c'est parce que tu es arrivé en France que tu t'es dit c'est une contradiction? Ou est-ce que ça, dès le départ, entre guillemets, on t'a fait voir cela comme des contradictions?
Je pense que la problématique, quand j'étais à Madagascar, c'est que déjà j'étais beaucoup plus jeune, donc prendre conscience de sa propre identité quand on est jeune, c'est plus compliqué. Et je pense que la France, en tout cas, m'a permis de vivre ces deux vies, c'est-à-dire la véritable liberté. Et quand on vit en fait librement, on prend conscience de qui l'on est réellement parce qu'on sait, on se tient sur nos jambes. À Madagascar, quand on est jeune, lorsqu'on est dans son propre, dans sa famille, on est chouchouté par ses parents, et c'est vrai qu'on ne vole pas forcément de nos propres ailes, on ne prend pas forcément conscience de qui l'on est, et aussi des combats qu'on veut mener par la suite. C'est vrai que ces contradictions à Madagascar, pour moi, elles n'existent, enfin, elles étaient certainement beaucoup plus tranchées, donc elles se posaient quasiment même pas. C'est-à-dire qu'à Madagascar, la notion d'être franco-malgache n'existe pas forcément. On est soit totalement malgache, on est soit totalement français. Et c'est beaucoup plus tranché qu'en France, je dirais. Sur les notions religieuses, on est totalement chrétien. On ne peut pas être chrétien, mais avoir quand même un regard critique sur l'évolution de l'Église ou dans quelle direction aujourd'hui l'Église va. On ne peut pas être tout simplement chrétien et homosexuel, c'est impossible. Mais même en France, il y a effectivement des tensions sur ce sujet. Mais c'est vrai que le fait qu'à Madagascar, toutes ces contradictions étaient tout simplement pas possibles. Lorsqu'elles sont arrivées en France, elles se sont exprimées. Et elle s'est effectivement aussi heurtée aux problématiques françaises. Mais je pense qu'en France, comme je l'ai dit, la France est pour moi un très grand pays et a traversé son siècle des Lumières et est en capacité d'accepter ces contradictions-là.
Quand tu penses à demain, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur?
J'ai peur que le cynisme gagne, en fait. J'ai peur, en fait, qu'on livre finalement notre optimisme entre les mains de personnes en fait, qui ont des intentions pas forcément favorables au vivre ensemble. J'ai peur en fait, que les frustrations de chacun l'emportent en fait, sur la raison, sur la capacité de se dire en fait, que cette tension qui est en face de moi, elle a aussi des conséquences pour moi-même. Je pense que c'est cette crainte-là, surtout qu'effectivement le cynisme l'emporte, que même moi-même, en fait, je sois emporté dans ces frustrations et je m'emploie chaque jour à faire en sorte que l'optimisme soit le plus haut possible. J'évite de me plaindre quotidiennement, mais même si c'est compliqué. Non, je pense surtout que c'est cette crainte-là, cette crainte. Pourquoi ça me fait peur, qu'en gros... les frustrations, généralement, elles engrangent systématiquement quelque chose de négatif. Quand on est frustré, il y a plusieurs manières d'expression, et très souvent, c'est une manière plutôt négative. Donc, si effectivement, il y a une frustration nationale et qu'elle s'exprime de manière négative, effectivement, j'ai bien peur que ça soit compliqué pour notre futur.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rassure ?
L'éducation. Et que l'éducation. Je pense que c'est très très important d'instruire, d'avoir un regard éclairé sur les différentes notions, de lire, de connaître l'histoire de son pays, par exemple, connaître sa géographie. C'est cette capacité à pouvoir débattre, mais aussi avoir un jugement... qu'il ne soit pas totalement étriqué. Et je pense que c'est par l'éducation que c'est possible.
Et tu crois en l'éducation en France ?
Je pense que oui. Pour moi, c'est pour moi la principale... Enfin, heureusement que la France a une école qui est gratuite pour tout, pour tous. Heureusement qu'en France, il y a encore une structure, je dirais, de république forte, même au sein de l'école. Alors oui, tout n'est pas parfait. Mais oui, je pense qu'en France, on a la chance d'avoir un système qui permet à ce qu'il y ait quand même un ascenseur social qui n'existe plus dans certains pays, comme aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. Et on a vu les résultats depuis maintenant 5 ans. On a vu ce qui s'est passé en Angleterre ou encore aux États-Unis depuis 5 ans. Voilà, les résultats, c'est des frustrations qui se sont exprimées. En France, il y a des frustrations. J'ai pas dit qu'en France, ça n'existait pas. Mais je pense que l'éducation nationale a permis à ce qu'il y ait quand même une prise de recul sur les différentes situations.
Est-ce que tu as quelque chose que tu as hâte de découvrir quand tu penses à demain ?
Je pense les avancées technologiques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire avec le digital de manière positive ? Comment on va réussir à intégrer le digital dans les instances de décision ? Ça a commencé avec le coronavirus. C'est la première fois qu'on a une Assemblée nationale qui travaille aussi par visioconférence et sur Zoom. Y a des choses qu'on nous avait expliquées qui étaient impossibles il y a peut-être 4 mois, et finalement on a été contraints de le faire et ça marche. Donc oui, je pense que le digital et les nouvelles technologies, j'attends énormément. J'attends de voir ce que va faire SpaceX sur les prochaines années, comment va évoluer l'exploration de l'espace. J'attends énormément des nouvelles technologies et j'espère que ce sera accessible au plus grand nombre.
Si je reviens sur un sujet plus léger mais qui m'amuse beaucoup, qu'est-ce que ça t'évoque, les pieds dans demain ?
Qu'est-ce que ça m'évoque ? C'est peut-être poétique alors du coup. Peut-être les pieds dans demain, mais alors la tête dans les étoiles. Je pense que, effectivement, aujourd'hui, on a déjà nos pieds qui sont dans le futur. Mais qu'on a encore la tête dans les étoiles sur plusieurs problématiques. Et il serait bien temps aussi que notre tête soit dans demain.
J'adore. À chaque épisode, j'ai des choses différentes. J'adore votre imagination et votre créativité, ça me plaît beaucoup. Si tu devais t'adresser à demain, si demain était une personne, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Juste une phrase, je dirais, pour cette réponse. Bats-toi pour que tu sois... Tu sois au meilleur de ta forme et pour que tu puisses exister surtout. Parce que pour de nombreuses personnes, je pense que c'est pas forcément possible. En tout cas, j'espère que tu pourras exister de manière positive et encore une fois dans une concorde complète. C'est-à-dire que tout le monde puisse te voir.
C'est intéressant parce que dans la liste de caractéristiques que tu m'as donné quand tu voulais te présenter, tu as mis en exergue le fait que tu étais catholique. Est-ce que la religion t'aide à réfléchir à demain ?
Je pense que c'est une foi qui... Enfin, là, tu as cité la religion, et c'est vrai que si j'étais pleinement français, dans le sens où en France, on est défini d'abord par sa citoyenneté, j'ai mis la religion parce que pour moi, ça a une incidence qui est personnelle, parce que ma foi personnelle, elle me permet en fait de me dépasser, elle me permet de regarder l'avenir en tout cas avec optimisme. Moi en fait ça me permet réellement de me dépasser. Ça me permet de me dire en fait, j'ai pas à m'inquiéter de demain parce que je sais que je suis armé aussi par ma foi. Je suis armé pour pouvoir vivre du mieux que je le peux demain.
Voilà. Et moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain ?
De pouvoir vivre tout ce que j'ai pu citer là. Je pense que c'est... tous les jours, pour moi, oui, effectivement, c'est un challenge, mais j'espère que toute cette palette de couleurs pourra s'exprimer demain. Je pense que c'est ce que j'aimerais qu'on me le souhaite. Vivre librement toute cette palette.
Bien ce que tu disais, en effet, vivre ensemble et faire société. Mais en tout cas, On pourrait parler des heures et j'essaie quand même de limiter, même si mes invités ont plein de choses à dire et hyper intéressantes, mais ça donne déjà des débuts de réponse, et donc un grand merci grâce à toi. J'ai certes les pieds dans deux mains, mais j'ai aussi la tête dans les étoiles, donc un grand, grand merci Edouard pour ton temps.
Merci à toi.
J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le préparer. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter les pieds dans deux mains. Continuez de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. La compétition est rude, mais je sais que je peux compter sur vous. Les Pieds dans deux mains est disponible sur les plateformes les plus connues, parmi lesquelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, mais aussi YouTube. Vous pouvez suivre les aventures de mon podcast sur le compte Instagram, @lespiedsdansdemain-8. Et enfin, un grand merci à Karl Moreau et son professionnalisme pour le montage de chaque épisode, Camille Laloux et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.